Tout le monde connaît le récit des mages, et pourtant il est incroyable le nombre d'idées reçues fausses que l'on a à leur sujet. Je ne parlerai même pas de cette chansonnette absurde que chantait Sheila il y a quelques années, en disant « comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger ». C'est d'une ignorance extraordinaire, puisque effectivement les rois mages d'abord n'étaient pas rois, mais ça nous allons pouvoir l'étudier, ça a été dit quand même depuis longtemps. Ils suivaient une étoile, je ne peux pas le nier, que c'était l'étoile du berger. Ça semble absurde, parce que l'étoile du berger c'est Vénus, elle est le soir à l'ouest, le matin à l'est, donc ils auraient tourné en rond. Et en tout cas, ça n'était certainement pas en Galilée, puisque les mages sont allés d'abord à Jérusalem, puis à Bethléem, où est né Jésus. Or, Jérusalem et Bethléem sont en Judée et pas en Galilée. La Galilée, c'est Nazareth, ville où a habité ensuite Jésus, mais donc les rois mages n'ont jamais mis les pieds en Galilée. Par conséquent, cette déclaration d'amour de cette chansonnette n'est simplement qu'un étalage de mufleries, et je ne vais pas le commenter. Mais reprenons d'abord les idées que l'on a concernant ces mages, et ce, depuis quand même plusieurs siècles. La première, c'est qu'ils étaient trois. Alors, est-ce que les mages étaient trois? La réponse, bien sûr, c'est que la Bible n'en dit rien, en tout cas. On ne sait pas le nombre qu'étaient les mages. Cette idée qu'ils étaient trois apparaît dans l'histoire du christianisme avec Origène et Léon le Grand vers 450 après Jésus-Christ, sans grande raison théologique, sans doute parce que, comme il y avait trois cadeaux, on a imaginé que chacun des mages portait un cadeau. L'un portait l'encens, l'autre la myrrhe et l'autre l'or. Mais l'idée qu'ils soient trois est théologiquement, d'un point de vue biblique, inacceptable. Tout simplement parce que les nombres dans la Bible ont un sens symbolique et que chaque nombre donc représente quelque chose. Or, trois dans la Bible, c'est, vous l'avez deviné, la Trinité. Trois, c'est le nombre de Dieu. C'est le nombre du spirituel. Et s'il y avait eu trois mages se prosternant devant Jésus, cela voudrait dire, en langage biblique et théologique, que Dieu lui-même vient se prosterner devant le Christ. Ça, c'est évidemment absurde. C'est un non-sens théologique. Dieu ne peut pas se prosterner devant son propre Fils. Par conséquent, les mages n'étaient certainement pas trois. Alors peut-être que l'esprit impertinent que l'on peut avoir nous pousserait à nous demander combien étaient-ils. La question est complexe. On pourrait toujours, dans le cadre d'une symbolique des nombres, imaginer qu'ils étaient deux, mais ils ne peuvent pas être deux, puisque deux dans la Bible, c'est le nombre de la parole de Dieu, l'Ancien, le Nouveau Testament, les deux tables de la loi, et donc la parole de Dieu ne se prosterne pas devant le Christ. Donc ils n'étaient pas deux. Ils n'étaient pas trois pour la raison que je vous ai dite. Ils ne pouvaient pas être quatre non plus, ils auraient pu, parce que quatre dans la Bible, c'est le nombre de la terre, les quatre points cardinaux, les quatre éléments, les quatre pattes des animaux. Et donc, 4, ça peut être le nombre des païens qui viennent adorer le Christ. C'est un peu le sens du récit des mages. Mais ça n'est pas possible non plus, parce que 4, c'est aussi le nombre des animaux, des chiens, des chats, des chevaux et de toute la création. Et les chiens, les chevaux et les chats ne se prosternent pas devant le Christ. Pour accéder au Christ, il faut avoir une certaine intelligence, je dirais, une capacité morale même, une conscience de soi. Les animaux ne l'ont pas, et donc les mages ne pouvaient pas être quatre. Alors étaient-ils cinq? Ça n'est pas possible non plus, parce que cinq, dans la Bible, c'est le nombre de la loi. Le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, que les Juifs appellent la Torah. Cinq commandements sur une table, cinq commandements sur l'autre. Cinq, et qui est le même nombre d'ailleurs symboliquement dans la Bible que 10, comme les 10 commandements. Eh bien, les mages n'étaient ni 5 ni 10, parce que les mages n'étaient tout simplement pas des hommes de la loi juive. Ils n'étaient pas juifs. Et ce n'est pas la loi de Moïse qui se prosterne devant le Christ. Donc, les mages n'étaient ni 5 ni 10. Est-ce qu'ils étaient 6? Je ne pense pas, parce que 6, c'est le nombre de la bête, 6, c'est le nombre du diable, parce que 6, c'est le 7, qui est la perfection de la création, auquel on retire le 1, qui est l'unicité de Dieu, et donc c'est le refus même de Dieu. Les mages étaient païens, mais ce n'étaient pas des militants opposés à toute spiritualité. Et les mages n'étaient pas la représentation du diable, donc les mages n'étaient pas 6. Alors, est-ce qu'ils étaient 7? Je ne pense pas, parce que 7, c'est la perfection de la création. Je vous l'ai dit, les mages n'étaient pas la représentation de l'aboutissement d'une quête spirituelle. Les mages avaient quand même de graves défauts, leur premier étant d'être astrologues. Et l'astrologie est une abomination aux yeux de l'Éternel pour l'Ancien Testament et n'a jamais eu très bonne presse dans le christianisme non plus. Donc les mages ne pouvaient pas être 7. Ils n'étaient sans doute ni 8 ni 9, parce que 8 et 9 ne représentent rien dans la Bible. 10, j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas l'être. 11 ne représente peu de choses dans la Bible aussi. Ah, alors, il n'y a plus qu'une solution, c'est qu'ils aient été 12. Parce que 12, dans la Bible, c'est le nombre du peuple de Dieu. Le nombre de ceux qui ne sont pas forcément parfaits, mais qui adhèrent à l'Éternel, qui adhèrent à Dieu et qui se disent « Moi, je veux appartenir à ce peuple ». Et donc certainement, les mages étaient 12. C'est ce que je crois. Comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres, comme les 22 ou 24 classes de prêtres autour du temple de Jérusalem, comme les 24 vieillards de l'Apocalypse, puisque 12 et 24 fonctionnent de la même manière. Et donc, en travaillant sur ce texte il y a quelques années, j'en avais conclu que les mages ne pouvaient être que 12. Et j'ai eu une confirmation très étonnante de cela il y a peu de temps en me penchant sur les textes masdéens. On sait en effet que ces mages n'étaient pas des mages au sens de Merlin l'Enchanteur, mais c'étaient des prêtres masdéens, des prêtres perses. Et en Mésopotamie, il y avait donc la religion masdéenne, qui était une religion qui adorait le dieu lumière, qui s'appelait Ahura Mazda. Et donc, dans les textes masdéens, on nous dit que justement, il y a des mages qui, une fois par an, à un certain moment de l'année, montent sur telle montagne pour observer les étoiles et pour voir si on n'arrive pas au moment de la grande révélation de Dieu. Et les textes masdéens, donc précédents l'histoire du Christ, nous disent tous les ans, les mages, donc les prêtres masdéens, vont sur telle montagne observer l'étoile qui indiquerait le moment où Dieu se révélerait, et nous dit le texte masdéen, les mages qui montent sur la montagne sont 12. Donc j'ai raison. Vous pourrez expliquer ça à vos petits-enfants, et ça vous fera des frais pour l'an prochain, pour racheter 900 tons en plus pour votre crèche. Ensuite, on nous dit, donc le premier point étant réglé, le deuxième point que je vais traiter rapidement, parce que je voudrais aujourd'hui, sans approfondir chaque point, simplement vous montrer toutes les questions que posent ces idées reçues sur les mages. Et je crois que chacune de ces questions mériterait une prédication. Et c'est un peu pour moi le programme que je voudrais me donner, en quelque sorte, pour l'année de réflexion à approfondir, parce que je n'ai pas la réponse à toutes les questions qui vont suivre. En particulier, celle-là très compliquée, de savoir si les mages étaient des rois. Là encore, la Bible ne dit pas que les mages étaient rois, on nous dit simplement des mages. L'idée qu'ils soient des rois est venue un peu plus tard, au IIIe siècle, je crois, avec Tertullien. Et cette idée est venue du psaume 72, quand on nous dit, ce psaume royal donc, que les rois de Tarsis et des îles payeront leurs tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. Et donc il y a cette idée, effectivement, dans le psaume 72, que les rois eux-mêmes viennent se prosterner devant Dieu. Les mages étaient mages, donc je vous l'ai dit, ils étaient prêtres. Le fait qu'ils soient prêtres d'une religion païenne nous donne un message clair, c'est que les autres religions viennent se soumettre au Christ. Alors on peut le voir d'une façon agréable ou désagréable, une façon un petit peu racoleuse, je dirais, qui consiste à dire à toutes les autres religions non chrétiennes, vous voyez, même les prêtres des autres religions y viennent et se prosternent devant le Christ. C'est-à-dire que vous, les prêtres musulmans, bouddhistes, juifs, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à vous prosterner devant le Christ, parce que c'est lui qui est plus grand que vous. Ou alors on peut le voir d'une façon moins désagréable, en disant le Christ lui-même est celui qui accomplit les attentes de toutes les religions du monde. Toutes les religions espèrent normalement le salut, le bonheur, la fraternité et l'éternité. Eh bien, le Christ est celui qui donne en plénitude un chemin d'amitié, de fraternité, de bonheur, de lumière, de joie, de paix et d'éternité. J'en suis d'ailleurs absolument convaincu. Je pense que le Christ est effectivement celui qui permet de faire converger toutes les attentes du monde entier, et chaque religion a une attente particulière, et que le Christ est effectivement la meilleure réponse possible à toutes ces attentes. Donc que les mages soient des mages, des prêtres païens, je le comprends. Est-ce que ça apporte quelque chose, le fait qu'ils puissent être rois ? Ce serait autre chose entre nous. Que des rois viennent se prosterner devant le Christ, c'est à ce moment-là le pouvoir temporel qui vient se soumettre au Christ. Message complètement différent, qui est absent du texte biblique. Mais est-ce que théologiquement, ce serait une bonne idée de penser que les mages puissent être des rois en plus d'être mages ? Eh bien, je crois que c'est très discutable, parce que cela pose la question essentielle et fondamentale sur laquelle je n'ai pas aujourd'hui de réponse définitive, la question de la théocratie. Est-ce que effectivement le pouvoir matériel doit se prosterner devant la religion, devant Dieu, devant le Christ et devant l'Évangile ? Est-ce que le pouvoir civil doit se considérer comme étant soumis au Christ et à l'Évangile ? Autrement dit, est-ce que nous devons imaginer que le seul pouvoir civil acceptable soit en fait une théocratie, c'est-à-dire un pouvoir dans lequel le pouvoir est lui-même soumis à Dieu ? Eh bien, je n'en sais rien, pour tout vous dire. Aujourd'hui, la mode, c'est d'être contre les théocraties, parce qu'on en a vu les effets, c'est plutôt ça. Parce que chaque fois qu'on a vu une théocratie dans le monde, en général, ça a été pour justifier une sorte de tyrannie, aussi bien dans le monde païen que dans le monde chrétien, aussi bien dans le monde catholique que dans le monde protestant, parce que l'image de Calvin à Genève ne donne pas vraiment envie, je dirais, de répéter ce genre d'expérience. Et donc, nous avons tous été, je crois, un peu échaudés par les théocraties, et en général, nous pensons qu'il est préférable que le pouvoir civil soit vraiment indépendant du pouvoir religieux. Et les protestants ont été les premiers, en 1905, à militer pour la séparation de l'Église et de l'État, pour la séparation des pouvoirs, et justement pour couper complètement l'un et l'autre, en disant au pouvoir civil et au roi « contentez-vous de gouverner » et de dire aux hommes d'Église et de religion « eh bien vous, prêchez la fraternité, l'amitié, l'espérance au peuple, mais surtout, ne gouvernez pas. » Il est vrai que la théocratie, souvent, est un prétexte pour justifier une tyrannie. Tout simplement parce que ceux qui disent « moi, monsieur, je n'obéis pas aux hommes, j'obéis à Dieu », disent quelque chose de très grandiose, mais en même temps de totalement infalsifiable, parce que jusqu'à présent, Dieu ne descend pas du ciel pour nous dire s'il faut agir de telle ou de telle manière. Et par conséquent, les théocraties ne se soumettent pas du tout à Dieu. Ils se soumettent à l'idée qu'a un tel qui se prétend représentant de Dieu, de ce que Dieu devrait penser si c'était lui, ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est-à-dire que Dieu lui-même ne disant pas clairement comment gouverner un pays, toute théocratie est de fait une tyrannie aujourd'hui. Et ceux qui prétendent se prosterner devant Dieu ne demandent qu'une chose, c'est que les autres se prosternent devant eux parce qu'ils sont les représentants de Dieu. Et donc les théocraties ne nous plaisent pas, et je crois que c'est justifié Cela dit, ne pouvons-nous pas avoir le rêve d'un gouvernement chrétien, d'un roi chrétien, d'un chef d'État chrétien, d'un gouvernement, d'un pays qui ait des lois profondément inspirées de l'esprit de l'Évangile, c'est-à-dire du respect du plus petit, du plus pauvre, de l'entraide, de la fraternité, du partage, du détachement même, où il y a une place pour le don, une société qui justement travaille, je dirais, à essayer d'optimiser autant que possible une image du royaume de Dieu dans la société qu'elle dirige. On rêverait de ça. Donc je pense qu'un homme d'État qui justement dirige puisse dire « Moi, je ne suis pas le maître du monde, mais il y a un plus grand que moi. Et ce que je fais, je ne le fais pas pour mon profit ou pour ma propre gloire, mais je le fais pour essayer de faire avancer le pays, le peuple, le monde, ceux qui me sont confiés, vers un idéal qui me dépasse et qui est celui du Christ et de l'Évangile, qui est celui des béatitudes, qui est celui du Notre Père, qui est celui de la passion du Christ. N'y aurait-il pas là quelque chose de beau, de tentant ? Eh bien oui, j'aimerais. Mais donc voilà, je vous laisse la question ouverte une fois de plus. Est-ce qu'il est bon que les mages puissent être considérés comme des rois ? Est-ce que nous devons espérer, vouloir que les rois se prosternent devant le Christ ? Ben, je vous laisse réfléchir à ça. Bon, ce n'est pas tout. Autre chose, on nous dit que, toujours dans les centons que vous avez, qui sont donc des représentations de toutes ces erreurs, on nous montre chacun des mages portant un cadeau, donc trois rois, un qui porte l'or, l'autre l'encens et l'autre la myrrhe. Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois en tout cas que cette image est très discutable et, à mon avis, mauvaise, ou en tout cas pose une question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un roi pour porter chacun des cadeaux, ou est-ce que, ce qui est mon hypothèse, chaque roi portait un petit peu des trois cadeaux. C'est-à-dire, chaque roi portait un peu d'or, un peu d'encens et un peu de myrrhe, et apporte chacun un petit peu des trois. Il est vrai que les cadeaux sont très vite devenus symbolique. De toute façon, c'est forcément légendaire, vous l'admettrez. C'est forcément légendaire. Si ça n'était pas légendaire, nous serions très rapidement dans une contradiction insoluble. Par exemple, on nous dit que les mages ont apporté de l'or, certainement en grande quantité. Question, qu'est devenu cet or ? Et on nous dit que Jésus était pauvre. Question, il n'était pas pauvre. Où l'était-il, puisqu'il avait l'or des mages ? Alors, qu'est devenu l'or des mages ? Est-ce que Joseph a été un mauvais gestionnaire ? Est-ce que c'est Joseph et Marie qui ont tout dilapidé avant la majorité du petit ? Ça serait pas bien, pas bien du tout ça. Ou est-ce que Joseph a mal placé l'argent ? Jésus lui-même, dans la parabole des talents, dit au mauvais serviteur « Tu aurais au moins pu confier l'argent à des banquiers ». Donc pourquoi Joseph n'a-t-il pas confié l'or des mages à des banquiers pour le retirer 30 ans plus tard avec les intérêts ? Alors cet or, il a disparu, probablement parce qu'il n'a jamais existé, évidemment, et que tout cela est profondément symbolique. Ça a été compris tout de suite, d'ailleurs, dans le christianisme, que l'or, l'encens et la myrrhe étaient des représentations symboliques de ce que l'on voulait offrir au Christ. Puis d'abord, un bébé, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'or ? Enfin, l'or encore, on peut le garder pour sa majorité, mais l'encens et la myrrhe, il fait une belle jambe, pauvre bébé. Et donc des représentations symboliques, alors on y a vu plusieurs choses. On a voulu dire que les mages, justement, offrent au Christ qu'ils ont de plus précieux et qu'ils offrent l'or qui est leur bien matériel et de dire, voilà, moi, si je rencontre Dieu, je lui dis, Seigneur, je t'offre ce que je possède, ça t'appartient. Et ils offrent l'encens qui est la prière qui s'élève dans le ciel, dans la Bible, « Eh bien, Seigneur, je t'offre ma prière. » Et la myrrhe, qui est ce qui servait à embaumer les corps et donc à se préparer à la mort, et de dire « Seigneur, je t'offre non seulement mes biens matériels, non seulement ma prière, mais aussi toute ma vie jusqu'à ma mort. » Voilà, je t'offre tout ça. D'autres ont voulu dire que l'or était le pouvoir royal, c'est-à-dire le pouvoir matériel, que l'encens était le pouvoir sacerdotal, des rites que l'on fait à l'église avec l'encens, et que la myrrhe était le pouvoir spirituel, donc celui de donner la vie éternelle. Ça me semble plus discutable, parce que je ne vois pas que ce soit les mages qui donnent ce pouvoir au Christ. Le Christ l'a de lui-même, sans qu'on ait besoin de le lui donner. Donc cette interprétation la plus ancienne des pères de l'Église me semble plutôt discutable, et je préférerais garder l'idée que les mages, qui nous représentent bien sûr, offrent simplement au Christ tout ce qu'ils possèdent de plus précieux, leur bien, leur prière, leur vie. Et nous en arrivons à cette question. Est-ce qu'il est possible que chaque mage porte un cadeau, ou est-ce qu'il faut que chaque mage porte les trois cadeaux? Eh bien, nous avons là un débat essentiel qui a été une des grandes querelles, je dirais, de la Réforme. En effet, dans le catholicisme médiéval, on pensait que la société étant un tout, il fallait que globalement dans l'ensemble, il y ait de la prière et de l'action, qu'il y ait des gens qui fassent des enfants, de la famille, et des gens qui n'en fassent pas. Et que les choses s'équilibrent, et que par conséquent, comme il y a des gens qui travaillent sans prier, eh bien c'est très bien qu'il y ait des gens qui prient sans travailler. Ce sont les moines qui deviennent des spécialistes de la prière. Donc eux n'offrent à Dieu que l'encens. Ils n'offrent à Dieu aucun temps, aucun travail, aucune participation à la vie de l'espèce humaine, de la société. Ils se spécialisent dans la prière. Donc est-ce que l'on peut considérer que le fait qu'il y en ait certains qui prient à notre place nous dispense de prier? Ou est-ce qu'il faut que chacun offre un peu des trois? Les réformateurs ont dit il faut que chacun offre des trois. Et donc que chacun prie, et que le fait de prier ne dispense pas de travailler, et le fait de travailler ne dispense pas de prier, et le fait de travailler et de prier ne dispense pas d'offrir sa vie. Je ne crois pas que les réformateurs aient utilisé cette question sur les mages à ce sujet, parce qu'ils étaient pris dans l'idée que les mages étaient trois, comme la tradition chrétienne le disait. Mais néanmoins, cette question-là nous ramène à cette question très fondamentale de savoir si justement l'Église est un grand corps dans lequel il faut qu'il y ait globalement de la prière et du travail, et après on se répartit les tâches, ou est-ce que chacun doit être une image de l'Église ayant à la fois une dimension spirituelle et une dimension matérielle? En bon protestant, je pense qu'effectivement il n'est pas possible de se reposer sur les autres, et que donc il n'est pas bon que quelqu'un qui travaille se disent c'est bon, ça ne me dérange pas puisque j'en ai d'autres qui prient à ma place, et inversement, il n'est pas bon que ceux qui prient ne fassent que prier en se disant ça n'est pas grave, d'autres travaillent à ma place. Et je pense effectivement que donc chaque mage doit porter chacun des trois cadeaux. Mais néanmoins, je dois dire que il y a dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens tout un chapitre sur le corps et les membres, où Paul justement développe le fait que tout le monde n'a pas le même charisme, et que certains sont doués pour parler, d'autres pour prophétiser, d'autres pour guérir, d'autres pour servir, et que nous sommes tous dans l'Église comme les différents membres d'un même corps, et que tous les membres ne sont pas des yeux, des bras ou des pieds, et que donc il y a une sorte de spécialisation dans l'Église et une répartition des charismes. Et donc finalement, je suis en train de me demander si Paul ne justifierait pas le fonctionnement des monastères catholiques romains. Mais, une fois de plus, je vous laisse la question. Encore autre question. L'étoile dont on nous dit qu'elle a guidé les mages vers Jésus. Ça, c'est faux. Évidemment, vous avez lu le texte, c'est faux. L'étoile ne les a guidés nulle part. Ils ont vu une étoile et se sont dit, il se passe quelque chose, mais ils ne savaient absolument pas où aller. Et donc, c'est eux qui sont allés à Jérusalem. À Jérusalem, ils étaient perdus. Ce n'est pas l'étoile qui les a guidés à Bethléem. Ils ont demandé aux prêtres. Et ce sont les prêtres qui leur ont dit que c'était à Bethléem que ça se passait. Et donc, n'oublions pas que l'étoile ne les a guidés nulle part. Bon, je vous l'ai dit, les mages étaient astrologues. Bon, on accepte qu'ils soient astrologues, c'est déjà bien gentil. Mais ne poussons quand même pas trop loin jusqu'à croire que les étoiles et que les astres pourraient nous guider vers le Christ. Je pense que ce serait aller quand même tout à fait dans l'exagération. Simplement, on voit que les mages, étant astrologues au départ, sont dans l'erreur. Je crois que cette étoile est une erreur pour les mages. C'est le signe de leur astrologie, d'une croyance déraisonnable et fausse. La preuve, c'est que dès qu'ils découvrent le Christ, on nous dit « l'étoile s'arrêta ». Mais moi, j'entends ça dans le sens que l'étoile s'arrête, comme quelqu'un dit « j'arrête de fumer ou j'arrête de boire ». C'est-à-dire que dès qu'ils ont le Christ, ils arrêtent l'étoile. Plus d'étoiles, on est libéré de l'astrologie, de ses craintes, de l'avenir, libéré de ces choses qui nous disent qu'il y a un destin, qu'il va se passer ceci ou passer cela, ou que le destin serait écrit dans le ciel ou je ne sais où. Dès qu'on découvre le Christ, il n'y a plus d'étoiles. Terminé. Plus d'astrologie, plus de craintes, plus de destin. On est dans la liberté et dans la providence de Dieu qui elle-même nous accompagne. Mais néanmoins, on admet que ces mages aient été astrologues au départ, ce qui montre qu'on accepte que les gens viennent même d'un point faux et que l'on puisse avoir de mauvaises raisons d'aller vers le Christ. J'ai moi-même cette expérience quand des couples, par exemple, viennent me voir et ils me demandent une cérémonie religieuse de mariage ou de baptême pour des raisons évidemment superstitieuses ou purement sociologiques. Est-ce que, comme certains pasteurs un peu intégristes, je devrais dire « Eh bien non, votre demande est mal fondée, je refuse de répondre à ce type de demande. » Le Christ a accueilli les mages qui sont venus avec une demande mal fondée en suivant une étoile qui ne ressemblait à rien et simplement il les a aidés, je dirais, à passer à autre chose et à revenir chez eux par un autre chemin, c'est-à-dire en étant transformés. Et donc nous devons admettre que une erreur de départ n'est pas forcément un problème pour découvrir le Christ et que l'on peut découvrir le Christ de n'importe où, même à partir d'une position erronée. Les erreurs ne sont pas mauvaises tant qu'elles nous permettent seulement de nous mettre en chemin. Et l'étoile a été bonne pour les mages parce qu'elle les a mis en chemin, mis en quête, en recherche de quelque chose. Et ça, c'est bon. Donc vive les erreurs qui nous font nous poser des questions. Vive les erreurs qui nous mettent en route. Vive les erreurs qui nous mettent en quête de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre qui nous pousse à nous interroger et à interroger les autres. Ensuite, nous pourrons découvrir autre chose et revenir chez nous par un autre chemin. Et puis enfin, les mages s'appelaient-ils Gaspard, Melchior et Balthazar? Alors ça, c'est encore plus tardif. Je crois que ça vient du VIe siècle. Eh bien non, je ne crois pas. Il est là indéfendable, je dirais, de donner des noms aux mages. Indéfendable parce que les mages n'ont pas de nom. Tout simplement parce que les mages, c'est nous. Et donc les mages, ils s'appellent de votre prénom à vous. Les mages, ils s'appellent comme je m'appelle. Et ils s'appellent comme vous, vous vous appelez. Et donc les mages sont des figures sans nom, des figures sans personne. Ce sont simplement des figures dans lesquelles nous devons nous incorporer, en quelque sorte. Et donc le nom des mages sont restés en blanc. Et c'est à chacun de marquer son nom sous un mage. Et donc, pour la crèche de votre famille, l'an prochain, vous achèterez autant de mages qu'il y a de membres de la famille. Et sous chaque mage, vous marquerez le nom d'un des membres de la famille. Voilà. Et si vous êtes encore plus doué, vous ferez faire des mages qui ont chacun un peu d'or, un peu d'encens et un peu de myrrhe. Ce sera mieux. Et donc, c'est une erreur de toujours voir dans les textes bibliques d'autres gens que nous. Et on nous dit, il y avait un noir, un jaune, un chinois, un rouge, un noir, un bleu, un vert, tout ça. Ça, c'est très mauvais. Parce que s'il y a un mage noir, ben moi, je ne suis pas noir, donc ce n'est pas moi. S'il y a un jaune, ben moi, je ne suis pas jaune, donc ça n'est pas moi. Non. Chaque mage, c'est moi. Et il n'est pas bon de se dire, ah, vous voyez, hein, c'est les païens qui vont reconnaître le Christ. Alors vous, là, les païens, Vous devriez vous y mettre, hein, parce que, sous-entendu, moi, je suis déjà un bon croyant, donc les mages, c'est ceux de l'extérieur qui viennent rappliquer dans mon affaire à moi. Pas du tout. En fait, je dirais que ce qui me contrarie le plus dans cette histoire, c'est qu'il y ait plusieurs mages. Pour moi, il y en a un seul. Et ce seul mage, c'est moi. Ce mage, ou ces mages, c'est moi dans mon cheminement, dans ma quête. Et l'histoire des mages, c'est comment je me rapproche du Christ, maladroitement, avec mes croyances absurdes ou simplement enfantines. Et c'est comment je vais rencontrer le Christ et le découvrir comme un petit enfant, dans la douceur, dans l'humilité. Et comment, dans cette rencontre, je vais commencer, moi, à découvrir ce que je peux faire pour Dieu, qui ne va pas être de lui réclamer ceci ou cela, mais de me mettre à sa disposition et de lui offrir le plus précieux de ce que je possède. Ou alors, si les mages sont plusieurs, c'est parce que nous sommes en collectivité, nous sommes en communion, en communauté, en Église, et qu'ensemble, nous cheminons vers le Christ. Et cette Église, eh bien, nous avons de la chance ici, parce que notre Église, ça s'appelle l'Église de l'Étoile. Voilà. Et ça, c'est beau, finalement, parce que c'est justement, peut-être, cette étoile qui est notre Église, qui n'est pas Dieu, mais qui nous accompagne vers Dieu. Et cette étoile qui nous accompagne dans notre marche. Et j'aimerais que notre paroisse soit justement comme cette étoile qui a accompagné les mages jusqu'au Christ, et qu'à la limite, quand on trouve le Christ, on n'a plus besoin de l'étoile. C'est-à-dire que l'important, c'est le Christ. C'est de découvrir ce Seigneur et ce Sauveur qui est le but de notre quête. Et cette étoile, eh bien, elle devient secondaire si on découvre le Christ, mais en même temps, elle est essentielle, parce que c'est elle qui met en mouvement les jeunes des catéchismes, des écoles bibliques, de ceux que l'on marie, que l'on confirme, des parents, des baptisés. Cette étoile qui met en mouvement, justement, le peuple dans une quête qui va les aider à cheminer vers Jérusalem en passant par les théologiens du Temple et qui va les mettre en mouvement pour aller jusqu'au Christ. Et mon vœu, donc, pour 2013, c'est que, justement, cette marche que nous faisons, nous tous, petits mages, je dirais, venant de je ne sais où, peu importe, nous cheminions tous ensemble, eh bien, accompagnés de cette étoile, de cette bonne étoile de notre Église, pour pouvoir aller jusqu'au Christ, et qu'une fois que nous soyons à lui, soyons arrivés à lui, eh bien, nous puissions simplement, dans la plus grande des joies, lui offrir tout ce que nous possédons et revenir chez nous transformés. Amen.